Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dumondi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Souleymane Baldo, l'expert indépendant, a effectué une visite sur le terrain du 27 novembre au 1er décembre 2017. Au terme de cette 9e mission au Mali, l'expert a publié un rapport en date du 1er décembre. Entre autres questions évoquées, les droits de l'homme, l'insécurité et la crise humanitaire qui, selon lui, ont pris une tournure inquiétante dans notre pays. Pourquoi le Mali va de mal en pire? Que faire pour renverser la tendance? Alors, nous avons invité le docteur Ali Tungara, il est sociologue. Bonsoir.
Bonsoir.
Maître Khalifa Iyaro est juriste. Bonsoir, maître.
Merci.
Et Ibrahim Maïga, qui est de l'ISS Mali. Bonsoir.
Bonsoir.
Et au téléphone, le professeur Ablaye Niang, économique, sera. Le professeur Ablaye Niang est économiste. Il sera au téléphone avec nous. Le docteur Adama Traoré, également de la société civile, sera au téléphone. Je suis Aliou Sidibé à la présentation. Bienvenue dans ce numéro de Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Souleymane Baldo a exprimé des inquiétudes par rapport à la situation des droits de l'homme au nord et au centre du pays, y compris des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Alors, comment se manifestent ces manquements aux droits humains dans ces zones-là, professeur Tungara?
Alors, merci de la question. Je crois qu'il est important de, à mon avis, de catégoriser déjà les zones d'insécurité, les régions nord d'une part et les régions dites centre de l'autre. Si vous prenez un peu les régions dites nord, il est quand même important de différencier déjà quelles sont les catégories d'acteurs qui seraient lésés de ces droits fondamentaux, notamment l'accès à la justice équitable, à une justice équitable, l'accès à une éducation de qualité, à tout ce qui s'ensuit. Vous avez dans les régions dites nord, de Mopti, de Gao, Tombouctou, en passant par Kidal, y compris les nouvelles régions, aussi les deux nouvelles régions, des acteurs. Lesquels acteurs, on a du mal déjà à les différencier de groupes extrémistes violents ou de groupes qui seraient dans la logique indépendantiste. Finalement, on ne sait pas si on arrête, pour être beaucoup plus clair pour nos auditeurs et nos téléspectateurs, si on arrête une peau rouge dans ces différentes localités, on a du mal si toutefois il est indépendantiste cet acteur ou s'il est terroriste. Donc dans ces cas de figure, comment voulez-vous que la justice soit distribuée de façon équitable? Déjà, on a un souci d'identifier les acteurs, enfin même si c'est pas un souci, en tout cas on fait semblant de créer un amalgame autour du profilage des acteurs. Si vous venez vers les régions dites le centre, notamment la région de Mopti, vous avez la nature du problème change. La question de l'insécurité, l'extrémisme violent à Mopti a pris une dimension ethnique. Laquelle dimension communautaire a été rythmée, il faut quand même le rappeler. Mopti est majoritairement peuplé par des peuls. Je ne suis pas là à légitimer les différentes exactions dont les peuls font l'objet, mais j'explique le pourquoi. Majoritairement, les acteurs qui ont été enrôlés par les différents mouvements sont des peuls. Majoritairement, les différents chefs, les différentes katibas sont également des peuls, notamment, je fais allusion ici, à Hamadoun Koufa. Donc finalement, d'une question sécuritaire, nous tombons dans des dérives ethniques ou communautaires. Le fait que majoritairement, les acteurs qui sont arrêtés sont de l'ethnie peul, l'effort de sécurité défense se donne la peine aussi, enfin, à peine elles arrivent justement à nuancer ce qui est peul et ce qui est extrémiste. Donc, ce qui fait qu'il y a des abus liés à ces fondamentaux quant à l'accès à l'éducation, quant à l'accès à une justice équitable, surtout parce que à Mopti, on vous dira qu'effectivement, la justice elle est beaucoup plus clémente vis-à-vis des non-peuls. Mais qu'est-ce qui a fait que sommes-nous arrivés à une telle justice aussi biaisée qui s'est inscrite aussi, notamment dans la lignée communautaire qui est très inquiétante. Donc, Dans les régions du Nord, on a du mal déjà à nuancer qui est terroriste, qui ne l'est pas, parce que lorsqu'une peau noire est arrêtée, le traitement qui lui est accordé serait naturellement différent d'une peau rouge qui est arrêtée. Donc finalement, l'État central du Mali n'arrive pas à jouer pleinement cette fonction régalienne, mais dans le même temps, les forces étrangères aussi qui sont sur le territoire ont du mal, à la limite, elles sont même taxées d'être des côtés de ces groupes qualifiés de peaux rouges.
Ok. Alors, docteur Adama Traoré, vous, à votre niveau, est-ce qu'il y a des choses à ajouter sur le comment se manifestent manquements aux droits humains dans les zones du nord et du centre du Mali?
Bon, c'est un problème. En fait, on veut rendre complexe ce qui ne l'est pas. Et ce qui se passe au nord, c'est connu dans son ensemble. On est parti d'une revendication des indépendantistes, puis maintenant, il y a l'extrémisme violent. Et ma foi, il y a également une série, n'est-ce pas, de la route des drogues, n'est-ce pas, qui vient s'ajouter à cela. Alors, je pense qu'il faut faire la part des choses. Il y a l'extrémisme violent, c'est certain. Et l'État n'a pas un contrôle effectif, n'est-ce pas, dans l'ensemble de la zone, n'est-ce pas, de Kidal. Ça pose un problème. Pour parler d'aide, il faut quand même qu'au moins il y ait une certaine présence des forces qui peuvent arriver à aider cette France-là. Si cette force n'est pas là, évidemment, ça pose problème. Il est certain que maintenant, je le dis, hein, ces problèmes, n'est-ce pas, de Kidal, bon, évidemment, on en reviendra. Ça fait étaler un peu, n'est-ce pas, d'autres régions. Le problème de Kidal, il faut sortir du château de Kidal. Kidal est une ville. Hein. Et à un moment donné, les forces, il y a 11 000 personnes au nord de l'administration qui sont dans le nord du pays, censées sécuriser, protéger la population. Malgré cela, la population, elle n'est pas protégée. Et finalement, les forces nationales du Mali, l'armée nationale...
Oui, mais comment se manifestent les manquements des droits humains?
Mais à quel niveau? Au niveau de la population?
Oui, au niveau de la population surtout.
Oui, au niveau de la population, il faut faire pas des choses. Enfin, la population, elle s'est dit victime, n'est-ce pas, d'une part d'avoir été victime de l'armée malienne, parce que en fait, c'était dans ce cas-là qu'il fallait voir. Les forces rebelles tentent de protéger cette population-là, ils savent agir à leur nom, ils veulent protéger leur intérêt, mais en réalité, et c'est cela. Donc, exactement, moi je pense qu'il y a, même à l'intérieur, n'est-ce pas, de mouvements, il y a des forces justement, qui ne veulent pas la paix. Et ceux qui ne veulent pas, ils font tout pour qu'on n'y arrive pas. Alors quand il manque tout, il manque la santé, il n'y a pas d'hygiène, il y a même souvent à nourrir, ça pose problème. Évidemment, c'est à ce niveau-là, ça pose, on est dans un schéma difficile. Mais en tout cas, l'extrémisme violent, il n'y a pas seulement, on a à un moment donné accusé les forces de l'armée d'avoir fait ceci ou cela, on a tantôt accusé les rebelles, tantôt dit non, c'est l'administration qui est du côté des rebelles, c'est une confusion totale. Okay. La gestion, ça vient à nous-mêmes. D'accord. Ça veut dire aucune force étrangère. Merci. Ne peut arriver à gérer le problème à partir des malades lui-même. Okay. Nous, population civile, il faut nous prendre notre décès en main et devenir en aide à nos populations. Personne ne veut le faire à notre place.
Okay.
Nous, société civile, ça c'est notre opinion, notre sentiment, c'est cela. Nous sommes tous victimes. Hein,
merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ibrahim Maïga, nous savons que le mandat d'expert indépendant a été établi depuis 2013, précisément le 15 mars 2013, en vue d'aider le gouvernement malien quand même dans ses actions de promotion et de protection des droits de l'homme, dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans les résolutions des conseils des droits de l'homme aux Nations Unies. Alors, ces différents rapports, nous sommes à une 9e visite quand même. Qu'est-ce qui a changé quand même sous forme d'aide jusque-là? Est-ce que ces différents rapports ont pu aider le gouvernement dans la promotion des droits de l'homme?
Alors, je ne sais pas si ces rapports ont pu aider le gouvernement malien à mieux promouvoir les droits humains, mais j'aimerais peut-être revenir à la question que vous avez posée en tout début d'émission.
La manifestation,
comment se traduit concrètement ces violations des droits humains? Alors, ce qui est pointé du doigt dans le communiqué de presse émis par l'expert indépendant, c'est les cas extrêmes de violation des droits humains. Il parle d'enlèvement, d'assassinat ciblé, les droits fondamentaux, la violation quotidienne, j'ai envie de dire, des droits fondamentaux, le droit à la santé, le droit à l'éducation, sont continuellement, ces droits fondamentaux sont continuellement violés presque dans une grande partie du Mali, pas qu'au nord, pas qu'au centre du pays. Véritablement, la problématique ou les problématiques qu'il met en exergue sont celles-ci, les violations graves faites aux populations, donc les assassinats ciblés, les enlèvements, la pose de mines également. Maintenant, pour revenir à votre seconde question, donc qui est est-ce que ces rapports finalement, parce que vous l'avez rappelé, c'est la neuvième mission, visite de l'expert indépendant. Et je trouve, en lisant les rapports justement précédents, que ces rédacteurs là, les rédacteurs du rapport, rivalisent d'ingéniosité pour trouver des mots ou un vocabulaire différent pour qualifier à peu près les mêmes mots. C'est-à-dire les violations des droits humains, mais pas que. Le problème de gouvernance, le problème d'insécurité, etc. Donc, il n'y a pas eu véritablement d'avancée positive, on a envie de dire, parce que ce que lui-même il constate dans son communiqué de presse, c'est une dégradation de la situation sécuritaire sur le terrain qui entraîne justement la violation ou qui accentue la violation de ces droits humains-là.
Ok. Alors, maître, vous voyez que quand on constate quand même ce rapport, et même sur le terrain, on se rend compte que ça va de mal en pire. Alors, quelle est la part de responsabilité de la gouvernance, de la justice et du développement dans ces questions? Là.
Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on parle des droits de l'homme, on fait appel à un concept global. C'est un continent, il y a des éléments constitutifs dedans. Notamment, vous y trouverez les libertés fondamentales, vous y trouverez les droits sociaux de base, vous y trouverez les droits à l'autodétermination. Si bien que pour définir les droits de l'homme, on dit que c'est des droits qui contiennent des droits de plusieurs générations, droits de première génération, droits de deuxième génération, qui constituent les droits socio-économiques et culturels, et les droits de troisième génération, qui constituent les droits à l'autodétermination. Et maintenant, la tendance est aux droits de la quatrième génération, qui inclut effectivement les évolutions technologiques, notamment les procréations médicalement assistées, etc., etc., les résultats de la science. Et donc, quand vous me demandez comment se manifestent les violations des droits de l'homme et pourquoi, donc vous m'amènerez à parler d'un ensemble de mécanismes prévus pour la protection et la promotion des droits de l'homme. Donc, autrement dit, c'est à une échelle assez large. Mais fondamentalement, ces violations se manifestent par la mise en cause de la primauté des droits de l'homme. Parce que c'est ça le principe. Les droits de l'homme sont des droits primordiaux. Les libertés fondamentales sont des libertés primordiales. Et donc, c'est le fait que ces libertés et ces droits ne sont pas consacrés, évidemment. C'est ce qui amène leur mise en cause. Et donc, ça se passe suivant le fait que ça altère un droit de la première génération. En ce moment, c'est des assassinats, des disparitions forcées, des emprisonnements, etc. Mais maintenant, si ça concerne le droit de la deuxième génération, c'est par exemple l'incapacité de donner des résultats efficients aux besoins de santé, aux besoins de culture, aux besoins de logement, etc., etc. Mais dans le cadre de l'expert indépendant, je crois que ce qui est visé, ce sont les libertés fondamentales, notamment avec ce que nous connaissons par le fait de la montée de l'insécurité et au nord et au centre du pays.
Ok, mais à propos de disparitions forcées, l'actualité du jour, c'est cette vidéo du juge de Niono qui circule sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis là-dessus?
Bon, de toute façon, il s'agit d'une voie de fait assez grave. Enlever une personne qui était en mission de service public. Et pour moi, c'est extrêmement grave d'abord. Et mon avis, c'est que les plus hautes autorités doivent mettre tout en œuvre pour pouvoir rechercher et retrouver cet agent de l'État qui était en service et qui n'a rien demandé que d'être protégé contre de telles violations des droits de l'homme.
Ok. Alors, professeur Abdoulaye Niang, économiste, alors, quelle est la responsabilité de la gouvernance de la justice et du développement dans ces questions de droits au Mali?
Bon, vous savez, d'abord, bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir invités. Ce qu'on peut dire, d'abord, le Mali a ratifié le pacte international relatif aux droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels de la 1976. Mais ce qui est certain, depuis 2012, il y a une dégradation ou il y a une privation des moyens propres de subsistance des populations, ce qui viole tous ces droits, que ce soit le droit civil, politique, que ce soit le droit économique, social et culturel. Et la gouvernance, naturellement, le système de mauvaise gouvernance, et entendant parlant de la mauvaise gouvernance sociale et culturelle, hier, ce qui était interdit dans la société, l'est aujourd'hui permis, l'est accepté. La gouvernance économique et d'entreprise, on prive les populations de leurs moyens de survivre. On s'enlève, par exemple, dans le centre, ceux qui ont des terres agricoles sont privés des permanents, ceux qui ont des terres pastorales sont privés de leurs terres. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ces deux populations, finalement, vont se canarder, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, la gouvernance tient un rôle extrêmement important dans la dégradation des droits humains, dans la dégradation des droits fondamentaux que nous venons de citer.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Retour donc sur ce plateau pour essayer de décortiquer quand même le rapport de l'expert indépendant des Nations Unies au Mali avec nos invités, Dr Ali Tungara, sociologue, Maître Khalifa Yaro, juriste, Ibrahim Maïga, ISS Mali, Professeur Abdoulaye Niang, économiste, et le Dr Adama Traoré de la société civile. Alors, Tungara, est-ce qu'il y a un rapport avec l'ouverture quand même, sinon la rentrée des cours et tribunaux de ce matin, par rapport à la vidéo qui circule sur l'étoile depuis hier?
Je crois que ça c'était un rendez-vous déjà où la date était fixée avant certainement l'enlèvement. Mais ce qui est important...
Quel peut être le message qu'ils veulent transmettre?
C'est quand même un message fort, mais il serait extrêmement important qu'on se dise une chose ici, que ce soit dans les régions dites nord, celles du centre au Mali, s'il y a un dénominateur commun, certes il y a des juges qui sont tout à fait excellents dans la distribution de la justice, mais l'écrasante majorité des Maliens s'accordent à dire qu'aujourd'hui, depuis hier d'ailleurs, la justice elle est rendue à géométrie variable. C'est une des raisons d'ailleurs qui explique le pourquoi, non seulement de la recrudescence, de la rébellion dans le contexte malien, et le pourquoi aussi justement de cette montée grandissante de l'extrémisme violent dans les localités concernées. Vous allez de Mopti à Kidal, aujourd'hui, tous ceux qui ont eu affaire avec la justice, s'ils ont un souvenir, le souvenir il est tout à fait douloureux. Le fait que le plus offrant a toujours eu raison. L'une des problématiques qui se pose aux pays africains, et notamment le cas du Mali, c'est à comment faire en sorte que l'élite, parce que l'élite, j'entends par l'élite, notamment le pouvoir central, aujourd'hui, certes l'État n'est pas présent dans toutes les localités, notamment ses autorités administratives et judiciaires, mais aujourd'hui partout où vous passez, beaucoup d'habitants vous diront que, avec les groupes extrémistes violents, ce qu'ils entendent par justice était mieux rendu qu'avec l'État central. C'est quand même une honte nationale dans un État sérieux. Mais franchement, entre nous, regardons ce qui se passe au centre aujourd'hui. Vous allez comparer le train de vue d'un juge et celui de ses revenus légitimes et son train de vue. Mais aucun pont n'est peut-être établie. Mais c'est pour dire à combien l'injustice, effectivement, à force de subir l'injustice, les gens se sont efforcés à se rendre justice. D'ailleurs, si vous écoutez les différents arrangements de Hamadou Koufa, en tout cas, majoritairement, ces arrangements mettent en relief la non-distribution de la justice de façon équitable et égalitaire. Et d'ailleurs, quand on creuse un peu dans les archives des différents groupes extrémistes violents, avec Abou Sahraoui, Yadag Ali, justement, tous ces acteurs nous disent qu'attention avec nous, nous allons vous garantir une justice équitable. Ce sont des échos, effectivement, ce sont des propos qui ont eu des échos favorables auprès de nos populations, notamment rurales. Donc, il est extrêmement important de condamner sans équivoque l'enlèvement, c'est extrêmement important. Mais dans le même temps, il serait bon qu'en tout Malien, qu'on se questionne sur notre arsenal juridique, avec tous ces beaux textes. Mais leur application, on n'a pas besoin de passer par une fac de droit. Dans le contexte malien, on oblige justement aux justiciables d'être corrompus. C'est ce que les gens oublient. Donc, il n'y a pas forcément lien entre un corrupteur et un corrompu. Il y a des corrupteurs sans qu'il y ait de corrompus et vice-versa. Donc, on oblige les citoyens lambda à tomber dans des pratiques non orthodoxes. Ça, c'est dans tous les secteurs aujourd'hui. On n'a pas besoin de la Kidal à Tombouctou pour se rendre à l'évident. Vous allez juste vous établir un excès d'acte de naissance, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un secteur qui soit épargné de ces traitements tout à fait injustes vis-à-vis du citoyen lambda. Et le citoyen, il demande qu'un traitement égalitaire entre la population.
Ok. Maître Khalifa Iyaro, le thème de, au niveau de la rentrée des cours et tribunaux, justement, ça porte sur l'indépendance des juges et la protection des droits humains. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation? Est-ce qu'au Mali, les juges ne sont pas suffisamment indépendants? Qu'est-ce qui entrave l'indépendance de la justice au Mali?
Vous me posez une question très délicate, qui amène des réponses assez équivoques. Parce que je ne peux pas dire que les juges ne sont pas indépendants. Parce que je n'ai pas la même vision que certains qui pensent que la justice est trop injuste. En tant qu'acteur de la justice, je me rends compte que des décisions saines sont rendus par la justice. Il est vrai que tout n'est pas rose, mais il est tout autant vrai que le tableau n'est pas assez noir. Maintenant, ce qui nous touche, touche à tous les secteurs d'activité. Maintenant, la justice, c'est un peu la face visible de l'iceberg. C'est vrai que quand les populations ont un sentiment que la distribution de la justice est mitigée, ça pose problème. Mais à mon avis, c'est que nous sommes dans une situation où notre société est un peu gangrénée. Maintenant, les causes sont profondes et c'est ce qui fait qu'on peine à sortir de l'ornière. Parce que ce n'est pas par le biais de la justice, mais il y a même une désarticulation, un dysfonctionnement dans presque tous les secteurs, que ce soit l'enseignement, que ce soit la santé, que ce soit la culture, etc., etc. Nous avons connu une désarticulation et un dysfonctionnement dans tous ces secteurs-là. Maintenant, revenant à la justice, je garde l'espoir qu'avec les différentes réformes qui sont entreprises actuellement, qui sont en cours, qui sont entreprises aujourd'hui, que le système va s'améliorer. Mais il faudrait quand même qu'on soit convaincu que pour une justice forte, il faut des moyens forts. J'ai tenu une émission l'autre fois, que quand il s'agit même pour un juge d'extraire quelqu'un qui est placé sous main de justice et de l'entendre, il faudrait bien qu'il sorte de l'argent pour effectivement pouvoir alors l'extraire. Et ce n'est pas agréable. C'est-à-dire qu'il y a les moyens matériels, les moyens institutionnels, les niveaux de traitement qui sont extrêmement bas, qui ne sont pas au niveau des standards internationaux. Donc il faut amener la justice à un minimum acceptable. C'est-à-dire quand on vous dit le budget qui est alloué à la justice dans notre pays, vous verrez que le travail ne peut pas être fait avec ce budget.
Qui vaut par moins... rapport à un pays comme le Mali ou les autres fonctionnaires, quand vous les comparez avec les fonctionnaires de la justice?
Non, mais vous savez, le juge ne vient pas ex nihilo. Il a un traitement. C'est-à-dire que si, vous savez, tous les secteurs d'activité ne sont pas les mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Si vous voulez tout de suite terre à terre comparer les niveaux d'un, je ne sais pas, d'un administrateur civil, un fonctionnaire, etc.
D'accord, on va épargner cette comparaison. Voilà. Alors, Ibrahim Maïga, quand un responsable de ce pays quand même fait allusion au récent jugement de Rastbach qui a entraîné quand même la démission du ministre de la Justice, et quand il fait allusion également à la libération de certains membres des groupes armés, alors est-ce que la justice dépend des politiques? La justice n'est pas totalement indépendante au Mali?
Alors, je ne sais pas exactement à qui vous faites allusion, mais...
On va taire le nom, mais c'était sur les antennes de Studio Tamani.
Alors, d'accord, ok, on va taire le nom alors. Mais il faut quand même rappeler que le Mali est dans un contexte particulier. Si vous voyez que la politique a une influence sur la justice, plus qu'elle ne l'a d'habitude dans d'autres pays de la sous-région, c'est parce que le Mali vit aussi un contexte de négociations politiques qui a un impact effectivement sur des décisions de justice, ce qui est peut-être ce qu'on peut effectivement regretter en tant que population, en tant que victime de la crise, mais c'est un processus et j'ai envie de vous dire c'est la réalité du processus. J'ai quand même envie de m'écarter un petit peu du dossier de la justice parce que j'ai l'impression qu'on risque de faire une émission dans l'émission.
Oui, oui.
C'est un sujet suffisamment vaste et je pense qu'il y a un intérêt profond, des attentes peut-être trop grande vis-à-vis de la justice, qui explique aussi quelque part le fait que même si les autres secteurs vont mal, sont dysfonctionnels, on tape plus sur la justice que les autres secteurs d'activité parce que la justice finalement c'est peut-être le pilier de la société, c'est ce qui nous permet de vivre en société, de nous réunir tous et de chacun être protégé par l'arbitraire.
Ok. Alors sur la question de l'insécurité, l'expert affirme dans son rapport que l'insécurité qui affecte la population dans certaines zones du nord et du centre a déjà entraîné la fermeture de plusieurs centaines d'écoles, ce qui est inacceptable selon lui. Alors, docteur Adama Traoré, selon vous, est-ce que l'inacceptable n'est pas totalement accepté désormais dans notre pays?
Bon, c'est peut-être un autre corps de pardon. Il est certain aujourd'hui que l'insécurité aujourd'hui a mis à mal tout notre système, n'est-ce pas, d'orientation, à tous les niveaux. Vous avez pris le cas de l'enseignement. Mais voyez la femme qui ne peut pas aller accoucher dans une maternité et qui risque de perdre sa vie à la maison, et de se déplacer d'une zone à l'autre, mais pas trop de le faire sans se faire agresser. Vous savez, on vit une situation, je le répète, vous avez survolé la justice du manière générale. Mais pour révéler un petit peu sur le personnel de justice, un petit peu seulement. Vous savez, la grandeur d'une nation, toute sa puissance, son organisation dépend d'un pouvoir judiciaire sain, un pouvoir judiciaire équitable. Quel n'est pas le cas au Mali. Je sais de quoi je parle. Tantôt, le professeur a parlé, n'est-ce pas, d'une justice à géométrie variable, qui dit même justice à vitesse. Où le seul lambda n'a pas son compte. Alors, je parle dans tout le détail par rapport à l'avoir du juge, par rapport à ce qu'il a. Je dis simplement qu'aujourd'hui, le seul lambda n'a pas son compte dans la justice. Maintenant, revenons à ce qu'il y a de sécurité dans le Nord. Ça, c'est pas seulement le Nord. Aujourd'hui, dans la zone de Mopti. Mais, allez voir, la plupart des écoles sont fermées. Les centres de santé sont fermés. Alors, c'est la population qui prend le plein fouet de tout ça. Alors, il est sûr, il faut se mettre d'accord. Le seul gouvernement n'a pas la capacité de gérer tout ça. Il faut une communion de l'ensemble de la population du Mali. Il faut qu'ensemble nous puissions nous unir. Ensemble nous puissions faire un front commun pour lutter contre cela. Et c'est ça le rôle de la société civile. On est en train de s'organiser. Il faut que le peuple malien prenne son dessin en main pour faire face à tout ça. Et j'assure que si on s'y met, on peut y arriver. Et on est en train de le faire à ce moment-là.
Une réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Et retour donc sur ce plateau avec le docteur Ali Tungara, sociologue, maître Khalifa Yaro, juriste, Ibrahim Maïga, ISS Mali, professeur Ablaye Niang, économiste, et le docteur Adama Traoré de la société civile. Alors, professeur Niang, est-ce que selon vous au Mali, l'inacceptable n'est pas désormais totalement accepté finalement au Mali?
Oui, je pense que l'inacceptable est devenu acceptable. Pourquoi ? Parce que simplement, il y a une démission totale de la gouvernance, en particulier au niveau le plus élevé. L'instabilité des institutions a affecté, si vous voulez, la volonté des uns et des autres de faire le maximum d'eux-mêmes. Donc, inacceptable, oui, mais pourquoi pas de l'accepter, parce que simplement, on ne fait rien. Et ça ne nous intéresse pas de faire quelque chose. Il y a la volonté qui manque, la détermination manque dans ce pays-là. Je crois que c'est une démission totale que nous observons au cours des dernières années en République du Mali. Et ça, il faut se ressaisir. Si on ne se ressaisit pas, et on ne sait pas dans quel état du Mali on est en train de partir. Nous pensons que fondamentalement, on part vers l'atomisation de l'état du Mali. Et peut-être c'est à ce niveau-là maintenant que l'inacceptable ne sera pas accepté.
Ok. Mais quand il y a une réaction.
Non, je voulais juste rajouter quelque chose. Je ne sais pas si l'inacceptable est devenu acceptable, parce que je ne sais pas, je ne pense pas que les autorités maliennes, en tout cas, je ne leur prêterai pas cette mauvaise volonté-là de ne pas remédier à la situation, même si, dans les faits, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles. Au changement.
Oui, mais on est devant l'impuissance maintenant, parce que l'année dernière, quand l'année scolaire prenait fin, il y avait près de 500 écoles qui étaient fermées. On a dû prendre des dispositions quand même pour la réouverture de pas mal d'écoles qui ont été encore refermées.
Alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que la situation de ces écoles-là est quand même liée au contexte sécuritaire. Donc, pour moi, on a un contexte large, qui est le contexte d'insécurité dans lequel on vit et qui a comme conséquence, la fermeture des écoles, c'est une conséquence de l'insécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'acteur malien, en tant qu'acteur étranger, pour remédier à cette situation-là? Je pense que c'est ce qu'il est important de voir. Et effectivement, les mesures qui sont prises par-ci, par-là, à la fois par les autorités et par les partenaires, ne semblent pas véritablement s'adresser aux racines du problème. On est encore dans des demi-mesures, parce que parfois, il y a des contraintes politiques. Il y a aussi parfois des calculs d'intérêt qui font qu'effectivement, les décisions au-delà de certaines mesures cosmétiques ne sont pas prises et ne sont pas appliquées. Et donc, ce qui fait que de 2012 à aujourd'hui, la situation, on a cette impression, je pense que c'est pas uniquement juste une impression, et que ça correspond quelque part à la réalité, que la situation se dégrade de plus en plus, même si parfois on a une accalmie au niveau entre les groupes armés politiques signataires de l'accord de paix et l'armée malienne. Mais au-delà de ça, est-ce que la sécurité est garantie pour les populations, qu'elles soient dans le nord du pays ou dans le centre du pays?
Ok, d'accord. On va dire quelques mots par rapport à l'humanitaire. Sur la crise humanitaire, l'expert affirme que selon les acteurs humanitaires, la crise humanitaire s'accentue mais devient une crise oubliée car elle est l'une des moins financées au monde. Alors, docteur Adama Traoré, est-ce à dire que le monde attend que les dernières cases partent en fumée au Mali pour apporter une solution sur ce plan?
À tous ces niveaux-là, on arrive à un point de gestion de gouvernance. Et à un moment donné, il faut que nous qui sommes là, ce n'est pas seulement le seul gouvernement qui doit détecter, qui doit voir le mal, etc. Il faut que l'ensemble des populations, nous qui sommes les victimes, en fait, à un moment donné, nous impliquons aussi dans cela. Parce qu'on ne sait pas seulement, on sait pas qu'un acteur vient de faire le tour, mais il faut faire un rapport par rapport à ça. Les rapports doivent parler de nous-mêmes, en tant que société civile. Nous constatons qu'on soit à même de pouvoir dénoncer. Pas seulement au niveau de notre gouvernement, mais sur le plan international. On est aujourd'hui assisté, le Mali est assisté à tous les niveaux. On a pratiquement tous les partenaires de développement qui sont là, qui disent on va vous aider, mais à quel niveau? Aujourd'hui, c'est malheureux. en train de dire maintenant que les ils sont oubliés, ils sont pas oubliés. Mais il y a un manque total de considération par rapport à la gouvernance. Il faut que nous puissions nous interpeller les gouvernants et que nous on puisse s'expliquer également. Pour qu'ensemble nous puissions nous donner la main et ramener ceux qui sont avec nous, qui tentent nous aider, qui tentent nous supporter, qui tentent nous accompagner, qui s'y mettent également à la tâche. Sinon, ce n'est pas seulement le Mali qui a oublié, mais sur le plan international, ce sont les plus grands oubliés du monde. Alors faut maintenant que les populations elles-mêmes prennent le dossier en main, qu'on se lève, qu'on les revendique, qu'on discute et qu'on amène assez pour puisse les prendre en compte.
Ok. Mais professeur Ablaye Niang, on a récemment entendu nos responsables faisant l'évaluation de la campagne agricole. Ils ont affirmé quand même que la production est suffisante pour mettre le Mali quand même à l'abri de la famine. Et pourtant, dans ce rapport, plus de 1,2 million de Maliens seront frappés par la famine. Est-ce qu'ils ont conscience du danger qui guette notre pays?
Bon, vous savez, le pays peut être autosuffisant physiquement en quantité produite, mais que les ménages soient dans l'insécurité alimentaire. Dans ces zones-là, la sécurité économique étant en mal, étant en insécurité économique, ça ne va de soi que l'insécurité alimentaire va suivre. Donc, ce n'est pas deux choses qui... Ça ne veut pas dire que si l'État globalement, ou le pays globalement est en sécurité alimentaire, que les ménages le sont. Je crois que c'est ce que le collègue expert indépendant voulait mettre en exergue. Et il se peut que même la disponibilité physique ne soit pas présente, même s'ils ont de l'argent. Et ils n'ont même pas d'argent, ils n'ont pas de pouvoir d'achat pour acheter, parce que simplement leur sécurité économique est en mal.
Ok. Alors, Tunkara, nous voyons qu'au Mali, hein, les humanitaires sont ciblés par ces terroristes et on a assisté quand même à la fermeture de leur action dans certaines zones. Alors, est-ce que quelle peut être la dernière option pour notre pays en voyant que ces humanitaires quand même arrêtent leur action?
Bon, le filet social est important, qu'on arrive à assister à ceux-là qui sont réellement dans le besoin. Mais je crois que des fonctions telles que l'éducation, la santé, l'accès à l'eau potable relèvent d'abord quand même de la responsabilité de l'État central. Et ces structures humanitaires doivent venir en aide à l'État central du Mali. Mais d'ailleurs, moi, j'ai tout le temps répété, ce sont ces structures humanitaires qui parfois mettre l'État en difficulté. Pour preuve, dans certaines localités du Mali, qui sont toujours concernées par l'insécurité, l'extrémisme violent, à force d'assister les populations, on les a carrément enlevé toute ingéniosité locale leur permettant de se prendre en charge. L'aide est intéressante, mais elle doit être définie au préalable. Vous avez aujourd'hui, dans certaines localités au nord, même au centre, dont l'État malien ne peut pas y accéder. Ce sont ces humanitaires qui servent le pont entre l'État et les groupes armés. Donc vous voyez à combien finalement, si l'humanitaire n'est pas maîtrisé, il pourrait même contribuer justement au recul, voire à la défaillance de l'État. Je crois que c'est extrêmement important. Tous les pays du monde, à un moment donné, leur parcours, ont eu à solliciter des aides, mais pas de façon éternelle. Moi, je ne vois pas une économie aujourd'hui florissante qui ne repose que sur l'aide. Je suis d'accord qu'effectivement ces différentes populations aujourd'hui veulent manger, ils veulent boire, ils veulent accéder à l'éducation. Mais qu'à cela ne tienne, il serait extrêmement important que ces populations provoquent des solutions innovantes à partir du local, de ne pas trop compter sur l'aide de l'étranger. Je connais même des localités où, lorsqu'on les apporte de nourriture, elles demandent d'être payées afin de décharger. Vous voyez combien finalement de l'assistanat, nous arrivons à des dérives qui pourraient même légitimer finalement, au bout du compte, l'action violente. Donc finalement, est-ce que peut-on continuer à assister éternellement une population au lieu de l'outuer, de se prendre elle-même en charge? Je crois qu'il serait bon que l'État malien se pose une telle équation. Est-ce qu'il va continuer à accompagner des humanitaires, lesquels humanitaires parfois se moquent même de ces fonctions régaliennes qui sont notamment d'avoir l'accord du préfet ou du sous-préfet ou de ne pas accéder à certains endroits sans la présence d'un agent de l'État. Bon, on sait, et la pratique qui se passe dans le centre et dans certaines parties des régions dites nord, effectivement, laquelle pratique n'est pas tout orthodoxe. Et d'ailleurs, je la considère comme une des raisons essentielles du pourquoi du non-retour de l'État dans certaines localités, parce que ces humanitaires se sont parfois substitués à l'État central. Donc, je crois qu'il faut revoir un peu cette donne.
Alors, Maître Khalifa Iyaro, tout n'est pas noir dans ce rapport de l'expert des Nations Unies, notamment quand il a salué quand même la création des forces du G5 Sahel. Cependant, il précise que la force du G5 devrait mettre en place des garanties et des mécanismes appropriés pour remédier à des violations et abus des droits de l'homme qui pourraient être commis par ces troupes dans le cadre de leur opération. Et en quoi peuvent-elles constituer ces garanties ?
Oui, mais quand on parle de la consécration des droits de l'homme, notamment de leur respect, de leur restauration, comme j'ai dit, ça appelle un ensemble de mécanismes. Vous avez des mécanismes judiciaires qui sont prévus, des mécanismes non juridictionnels. Donc tous ces mécanismes-là concourent ensemble pour permettre, comme on appelle, une bonne consécration des droits de l'homme. Maintenant, votre question dit, alors il s'agit de voir quel serait l'impact que, effectivement...
Les garanties qui peuvent être mises en place pour pallier contre la violation et les abus des droits de l'homme.
Par les forces
du G5 Sahel.
Bon, en fait, il y a un ensemble, une batterie de mesures, que ce n'est ni le lieu ni le moment de dérouler ici. Mais la première, c'est de permettre de normer effectivement ces forces, c'est-à-dire qu'elles obéissent à un ordre bien spécifié, un mandat bien déterminé, avec des zones d'intervention bien claires, des acteurs de collaboration, des formes d'assistance bien précisées.
D'accord. Merci beaucoup, Maître Khalifa Iyaro, juriste. Docteur Ali Tungara, sociologue, merci. Merci à Ibrahim Maïga, chercheur à l'ISS Mali. Docteur Adama Traoré de la société civile, merci. Merci spécialement au professeur Abdoulaye Niang qui, malgré son état de santé, a voulu être présent avec nous dans ce grand dialogue qui portait sur la 9e visite de l'expert indépendant au Mali. Que retenir de son rapport? Nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Le débat a été réalisé par Moumine Sendebou et mis en onde par Seydou Mbo. La régie vidéo est assurée par Salim Ndjouara et Aliou Sidibé était à la présentation.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Moundi.
Chenne Berry.